La lecture que je vous propose est prise dans l'Épître aux Hébreux, comme celle que nous avons faite tout à l'heure, mais au second chapitre, à partir du verset 5. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien accepté de cette soumission. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous qu'il a goûté la mort. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, de perfectionner par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore, je placerai ma confiance en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même de la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. C.S. Lewis pensait possible de déduire tout le christianisme du sentiment de malaise et d'étrangeté que les hommes éprouvent devant les morts, ou devant la mort, toujours à la fois terrifiante et fascinante. Or, il voulait dire, je crois, que seule la révélation biblique permet d'interpréter, sans l'éluder, sans l'escamoter, cette expérience confuse mais universelle. Il ne voulait pas dire que le sentiment naturel engendre naturellement une conception juste et correcte de la mort. En réalité, c'est le contraire qui arrive, car l'homme naturel fait dévier le sentiment qu'il éprouve spontanément. Pour parvenir à interpréter ce sentiment comme il convient, c'est par l'écoute de la parole de Dieu qu'il faut commencer sur ce sujet si brûlant et qui nous remue à tel point où notre subjectivité est engagée à tel point, peut-être plus que sur tout autre. Il faut donc essayer de chercher une théologie biblique de la mort. Je ne vais pas suivre, ce serait je crois une élégance un peu forcée, un chemin strictement parallèle à celui de l'exposé d'hier, malgré l'affinité qu'il y a entre le sujet de la maladie et celui de la mort, et en particulier je renoncerai à l'inspection du vocabulaire biblique. À mon avis, ce petit travail ne s'impose pas pour le mot mort comme pour le mot maladie. Le vocabulaire qui concerne la mort, je dirais que c'est un vocabulaire de dénotation plutôt que de connotation. Il se borne à nous renvoyer à la brutalité trop connu du phénomène, sans nous suggérer spécialement des éléments de concept. Alors, pour cerner la notion de la mort, c'est par là que nous allons commencer, il faut faire appel aux périphrases et plus généralement au contexte quand il est question de la mort. Je serai obligé de faire référence, comme je l'ai fait d'ailleurs hier, à quelques ouvrages, mais je signale tout de suite que les ouvrages concernant la mort sont infiniment plus nombreux que ceux qui concernent la maladie, à moins que l'on considère ceux des médecins, mais ce n'est pas de ces ouvrages-là que je vous ai entretenu hier, et qu'ils se situent en général, ces ouvrages sur la mort, à un niveau de réflexion beaucoup plus spéculative. C'est un thème de philosophe, alors que la maladie l'est beaucoup moins. Ce qui veut dire que les lectures que de temps en temps je signalerai sont souvent des lectures d'un type plus difficile et moins pastoral, comme on dit, que ceux des livres d'hier. Commençons donc par considérer la mort et sa notion dans l'écriture. Une distinction très simple s'impose pour ce paragraphe. Il faut dédoubler en quelque sorte les choses selon les deux sens possibles en français et dans d'autres langues aussi bien, dans les langues bibliques aussi bien, du mot mort. On peut désigner par ce mot l'état de mort, l'être mort, et on peut désigner par ce même mot l'événement de la mort, le mourir. Et je crois que si nous cherchons à cerner la notion, il nous faut d'abord faire cette distinction. Commençons par l'état de mort. En résumé, je dirais qu'il me semble qu'il s'agit dans l'écriture d'une existence diminuée, privée de ce plus que vivre ajoute à exister et qui est sans retour. C'est ainsi que je décrirai très brièvement la notion, mais maintenant je développe. La mort, l'état de mort, est une forme d'existence. Cela requiert peut-être démonstration, surtout pour l'Ancien Testament, car certains cèdent au doute à cet égard, bien que ce doute ne me paraisse pas justifié. Quelles sont les données bibliques qui nous montrent qu'il s'agit, lorsqu'il est question des morts, non pas de simples souvenirs d'êtres qui furent, mais qui ne sont plus du tout, dans aucun sens? Bien, c'est d'abord la représentation du Sheol, la représentation du séjour des morts, Hadès dans le Nouveau Testament. Je ne pense pas que ces représentations soient des représentations très nettes, qu'il y ait des théories tout à fait définies et systématisées à l'égard du Sheol. C'est un peu comme quand nous disons la tombe. Cependant, il y a certaines données qui reviennent et qui nous permettent, je crois, d'affirmer que le Sheol n'est pas simplement le vide. Les morts s'y trouvent réunis. Ils descendent au Sheol où les fils sont réunis à leur père. Le Sheol est appelé la maison où se rencontrent tous les vivants, Job 30, 23. C'est vraiment un lieu, semble-t-il. Et ceux qui s'y trouvent, que souvent, mais ce n'est pas un terme biblique lui-même, que beaucoup d'auteurs appellent les ombres qui sont au Sheol, ceux qui s'y trouvent semblent conscients, d'après plusieurs passages. Dans deux passages de prophètes qui sont fort développés, Ésaïe 14 et Ézéchiel 32, nous voyons un potentat de la terre descendre au Sheol, se faire accueillir par tous ses pères qui s'y trouvent déjà. Nous avons là des dialogues, des paroles qui s'échangent. Il ne semble pas du tout que ceux qui sont au Sheol soient abrutis dans une inconscience totale, pas du tout. On peut signaler aussi que dans le texte qui interdit toute communication avec les morts, ils reçoivent un nom assez curieux. Dans le Lévitique, chapitre 19, verset 31, par exemple, ils sont appelés les Yidéonim, Yod, Dalet, Ayin, Nun, Yod même, les Yidéonim, ce qui semble parvenir, oui, ce qui vient à coup sûr, de la racine Yada, signifiant connaître. Il y a la suggestion que qu'une connaissance particulière appartient à ces êtres dans l'au-delà. Dans le Nouveau Testament, nous aurions le prolongement de ces données avec la fameuse parabole de Lazare et du mauvais riche. Nous les voyons dans l'Hadès, Luc 16, 22 et suivant. Et il me semble que Jésus aurait difficilement pu dire cette parabole s'il avait cru que les morts sont dans une pure et simple non-existence ou simplement même dans l'inconscience. Je crois que nous sommes obligés de concéder à ceux qui veulent plaider dans un sens contraire au mien que Jésus, comme dans beaucoup de paraboles, enjolive, en rajoute, et que tous les détails de cette histoire ne correspondent pas nécessairement à la réalité de l'au-delà. La communication qu'il y a entre Abraham et le mauvais riche semble difficile à étant donné l'harmonie du reste des enseignements scripturaires, à prendre littéralement. Il nous semble difficile d'affirmer sur la base de cette parabole qu'il y a dans l'au-delà des conversations qui s'échangent dans les deux divisions du séjour des morts. Mais il me semble que si vraiment il n'y avait dans l'au-delà aucune existence ou aucune conscience, Jésus aurait, si j'ose dire, trompé son monde en suscitant une parabole de ce genre. Ainsi, il me semble que nous avons là un élément qui pèse un bon poids dans l'examen de ce sujet. On peut signaler aussi le texte de la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, 2 Pierre 2, 9, où nous voyons que ceux qui ont péché sont gardés, prisonniers, en vue du jugement. Donc ils n'ont pas cessé d'exister. Je cite ce passage parce que je veux éviter, pour le moment, de me référer au texte qui concerne des croyants. Nous parlons de la mort en général. À ce texte, d'ailleurs, je joindrai pour ma part, selon l'interprétation qui m'en paraît la plus probable, le texte de la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19 et suivant, où il s'agit des esprits en prison. Je crois qu'il s'agit des morts de l'époque de Noé, qui sont actuellement esprits en prison. Alors, les textes qu'on voudrait opposer à la thèse que j'appuie sur les données que nous venons d'évoquer me semblent tomber dans deux catégories principales. Je crois qu'il est utile de les mentionner. Ou bien il s'agit de moments d'un débat qui se poursuit et d'affirmations qui vont se trouver complétées, corrigées, peut-être renversées dans la suite du discours. Il me semble que c'est ce que nous avons avec les déclarations très pessimistes à propos de l'au-delà d'un Job au chapitre 14, verset 10 et suivant, qui semble considérer la mort comme une fin de néant dont rien jamais ne peut remonter. Il me semble que c'est une étape dans son combat spirituel et que nous avons l'issue glorieuse au chapitre 19 ensuite, dans le fameux passage sur le Rédempteur, le Vengeur qui se lèvera le dernier, et que de sa chair ou sans sa chair, Job lui-même verra. Job 19, 25 et suivant. Nous avons le psaume 88, qui semble un psaume complètement écrasé sous la pensée de la colère divine et d'une mort sans aucune lueur d'espoir. Mais il faut prendre le psaume 88 avec le psaume 89. Ils font la paire et c'est un volet d'un ensemble qu'il ne faut pas interpréter donc par lui-même simplement. Nous avons les paroles, là encore, très, très amères et désabusées, semble-t-il, de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au chapitre 9. Qui sait si le souffle de l'homme monte en haut, le souffle de la bête descend en bas, s'il y a la moindre différence entre l'homme et la bête. Mais la fin du livre, vous le savez, au chapitre 12 et au verset 7, répond avec la ferme assurance que le souffle de l'homme remonte, retourne à Dieu qui l'a donné, alors que la poussière retourne à la poussière. Ainsi, il ne faut pas isoler les textes qu'on pourrait appeler pessimistes ou qui suggéreraient l'extinction ou l'annihilation parce qu'ils font partie d'un ensemble plus vaste. Puis la deuxième catégorie de textes font partie de requêtes ou d'actions de grâce, de textes poétiques en général et pathétiques dans le ton, où il y a opposition, contraste entre les bienfaits de l'alliance que connaît celui qui prie et la mort qui l'assiège ou qui l'assiégeait. Ce sont les textes où il est dit que dans la mort ou dans le séjour des morts, il n'y a plus de mémoire, on ne loue plus le Seigneur, etc. Et c'est la demeure du silence. Ce sont ces textes que souvent ceux qui voudraient nous conduire à une idée de la mort comme extinction totale citent. Mais on ne s'aperçoit pas, je crois, quand on les utilise comme des preuves d'une telle thèse, qu'il ne s'agit pas du tout de déclarations dogmatiques. Il ne s'agit pas à froid d'un enseignement sur ce qui se trouve dans l'au-delà. Il s'agit de moments de prière et de prière très chargés d'émotions où le contraste s'opère du point de vue de celui qui prie entre ce qu'il connaît et qu'il apprécie, les dons de Dieu dans son culte et dans sa communion terrestre, et puis cet inconnu, cette mort sur lequel il ne fait pas de théorie. Le contraste est fait du point de vue de celui qui prie. Et la mort ne signifie pas plus, là, la déclaration n'est pas plus précise, que l'enlèvement des avantages que le psalmiste connaît bien. Le psalmiste, ou celui qui prononce la prière, la plupart des textes sont dans les psaumes, alors je vous les cite, vous avez le psaume 6, verset 6, le psaume 30, verset 9-10, le psaume 94, verset 17, où c'est juste le silence qui est mentionné. Le psaume 115, verset 7. Et puis alors la prière d'Ézéchias, en Ésaïe 38, 18 et suivant en particulier. La prière d'Ézéchias, c'est particulièrement typique. Je crois qu'on fait une erreur qu'on pourrait dire de genre littéraire, lorsque l'on prend ces textes comme l'équivalent d'enseignement sur ce qu'est l'au-delà, de textes doctrinaux sur ce point. Nous avons là des contrastes. Et je signale en particulier que si la mémoire est en cause, ce n'est pas au sens subjectif que nous donnons le plus souvent au mot, mais le parallélisme poétique est assez clair. Il s'agit de la mémoire dans le culte par la commémoration du nom de l'Éternel. S'il n'y a plus de mémoire dans le séjour des morts, dans ces textes, cela signifie qu'on ne célèbre plus le nom de l'Éternel, comme dans les fêtes d'Israël. C'est tout cet ensemble du culte et de la louange que celui qui prie là met en contraste avec la mort. Ainsi, nous n'avons pas, je crois, dans ces passages, d'objection véritable à la thèse que nous avons posée, à savoir que la mort est une forme d'existence, mais une existence diminuée, deuxième point. D'où pouvons-nous tirer cette deuxième considération? Je pense qu'on pourrait essayer, je ne vais pas le faire, de discerner quelles sont les connotations de la vie, et puisque la mort s'oppose à la vie, dire que la vie est épanouissement de l'être, qu'elle est progression, et qu'ainsi la mort doit être le contraire. Mais de toute façon, même indépendamment de cette analyse de la notion de vie, il y a le parallélisme entre faire mourir et puis détruire, que l'on trouve souvent. Il y a le symbolisme de la poussière, qui paraît assez important. La poussière, c'est ce qui se désagrège, ce qui se pulvérise. C'est ce que l'étymologie même de pulvérise nous prouve. Le fait que la mort soit associée à un devenir poussière ou un redevenir poussière me semble associer la mort à la désagrégation, la division interne, la désharmonie, la disharmonie, c'est l'association à la destruction. Il en résulte une certaine affinité avec le néant. Si la mort n'équivaut pas au non-être, elle suggère le moins-être. Quelques passages. Dans le psaume 89, verset 48, la mort, ou peut-être la brièveté de la vie, mais parce qu'elle est cernée par la mort, est évoquée à l'aide du mot hébreu shao, shin vav aleph, qui peut signifier la déception, la vanité. C'est un mot qui évoque quelque peu l'idée de néant. Dans Ésaïe 38, 17, c'est un mot, le mot beli, bet la médiod, qui peut évoquer la consomption, le fait d'être rongé. Dans Genèse 42, 36, Jacob dit de Joseph qu'il croit mort. Joseph n'est plus. Il n'y a plus de lui, littéralement. Cet exemple est très intéressant parce qu'il nous montre une association de l'idée d'absence, de néant et de celle de mort. Mais en même temps, cet exemple nous montre qu'il ne s'agit pas alors d'en faire un argument pour la théorie de l'extinction totale, de l'annihilation. Car dans le même verset, Jacob dit de Siméon, qui est retenu prisonnier en Égypte, Siméon n'est plus, Joseph n'est plus, il est mort, pense-t-il. Siméon n'est plus, il est prisonnier. Alors Jacob pense qu'il ne le verra plus, il est sorti de son monde, il a disparu pour lui, et ainsi il dit il n'est plus. Ce n'est donc pas pour Joseph nécessairement une annihilation qu'il a en vue, davantage que pour Siméon. C'est au sens littéral une disparition. Il n'est plus, il n'apparaît plus dans le champ visuel, dans le champ expérimental de celui qui parle. Et alors à partir de là, nous atteignons une des composantes qui me paraît très caractéristique de la notion biblique. Le mort est retranché de la terre des vivants, toujours à propos de cette diminution de l'existence. Le mort est retranché de la terre des vivants. C'est une deuxième expression typique, il y avait réuni à ses pairs tout à l'heure, mais maintenant retranché de la terre des vivants. Et je crois que c'est la portée des plaintes sur l'absence de mémoire dans le séjour des morts, peut-être aussi des interdits qui portent sur le spiritisme, tout effort de communication, et peut-être aussi un des aspects des interdits rituels quant au contact du cadavre. Il y a rupture entre le mort et la terre des vivants. Peut-être était-ce aussi un aspect de la fonction des funérailles que de bien marquer nettement pour toute la société que cette rupture avait eu lieu. Les funérailles sont une sanction sociale de la disparition de celui qui est mort, et on entérine en quelque sorte la rupture des relations avec lui. Avec l'impossibilité de communiquer va l'incapacité d'agir. Donc ils sont retranchés de la terre des vivants, mais ils ne peuvent pas agir non plus. C'est leur repos qui est une ou deux fois, comme en Job 3, évoqué de façon relativement positive. Et ils se reposent, couchés, semble-t-il, le plus souvent, parce qu'il n'y a plus pour eux de possible. La mort est comme une paralysie qui fige ce qui fut leur vie. Alors là, j'invoque quand même la notion de vie, pour souligner qu'elle est très fortement liée à la possibilité d'agir. Le Dieu vivant, c'est le Dieu qui intervient. le Dieu qui se manifeste par des actes. C'est cela, la vie, et si l'homme est vivant à l'image de Dieu, c'est à cause de cette capacité d'agir qui lui est donnée. Voilà quelques traits, je ne prétends pas être exhaustif, qui suggèrent ce qu'implique la diminution de l'existence dans la mort. Et puis j'ai ajouté « sans retour » pour marquer que cette fixation par la perte de tout possible, de tout avenir possible, cette fixation est irréversible. Je crois que cette note, nous l'entendons dans l'Écriture, la mort est le destin qui ne se renverse pas, sauf déploiement de la puissance créatrice de l'Éternel. Mais autrement, 2 Samuel 12, 23 le dit très simplement, n'est-ce pas, David, à propos de cet enfant qui lui est né et qui est mort. Il avait jeûné, prié pour espérer éviter cette mort, mais maintenant, c'est moi qui vais vers lui, il ne reviendra pas vers moi. C'est un sens unique. Et 14-14 a une belle image, nous sommes comme de l'eau qui s'écoule. Comme de l'eau s'écoule le long d'une pente, et jamais ne remontera cette pente, ainsi des humains qui vont dans la mort. Dans le psaume 49, verset 20, il est dit des morts qui ne reverront jamais la lumière. Psaume 49, verset 20. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait citer, alors en langage plus théologique, de nouveau l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Vous connaissez bien ce texte. Il donnait aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Cela suggère l'irréversibilité. Dans ces traits de la notion biblique, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de très bouleversant. Il me semble que cette notion correspond assez bien à l'expérience élémentaire que nous faisons de la mort d'autrui avec ses prodromes. Ce qui marquerait plutôt l'originalité de la Bible, c'est d'en rester si près, sans inflexion idéologique particulière. L'événement du mourir. Alors c'est bien sûr l'entrée dans l'état de mort. Mais que pouvons-nous en dire de plus? Il est évoqué un certain nombre de fois comme retour à Dieu, au moins c'est assez souvent spécifié, ou en tout cas départ de l'homme, de son souffle, de sa ruach, esprit, souffle, ou de sa nefesh, âme, vie. Vous connaissez ces deux termes tout à fait typiques du vocabulaire de l'Ancien Testament avec leur correspondant dans le Nouveau, pneuma et psyché. Et je vous rappelle qu'ils signifient tous les deux le souffle, en fait. L'image originelle est presque la même. On a pu dire que la nefesh, c'est l'image du souffle du gosier, alors que la ruach, c'est l'image du souffle dans les narines. C'est cela qui serait peut-être la distinction au départ. Alors mourir, c'est rendre l'esprit, c'est expirer. L'esprit s'en va. Alors Job 34, 14 et suivant. Puis pour le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'autres textes dans l'Ancien, pour le Nouveau Testament, Jacques 2, 26, le corps sans esprit est mort. Vous savez d'ailleurs que second a traduit âme, là, le mot qui est habituellement traduit esprit, n'est-ce pas? C'est pneuma. Il n'a peut-être pas eu tort, ce n'est pas une trahison du fait précisément de la proximité de ces deux termes. Mais enfin, je vous signale que c'est le mot pneuma dans Jacques 2, 26, le mot qu'on traduit habituellement esprit. Et vous avez le verbe expirer qui est utilisé pour la passion même de notre Seigneur Jésus. Pour l'âme, nous avons aussi des textes. Rendre l'âme est employé par exemple dans Lamentation 2.12. Ou bien Luc 21.26. Et d'autres textes nous présentent l'âme qui s'en va dans le livre des Rois, au chapitre 17, verset 21, 19, verset 4. Dans le Nouveau Testament, Luc 12, 20, Acte 20, 10, si je peux bien me relire. Je crois qu'il vous prendrait trop de temps de lire chaque fois tous ces passages correspondants. Je vous cite les références pour que vous puissiez les retrouver dans vos notes. Alors, la question qui se pose à propos de ces termes et de ces usages de langage est la suivante. Lorsqu'il est question du souffle qui repart, s'agit-il simplement d'une expression pour désigner le soutien divin de l'être qui est retiré, de la vie donnée par Dieu qui s'en va? Alors l'expression ne signifierait rien de plus que simplement la mort commence. Ou bien, est-ce que ce mot souffle, ruach ou nefesh, esprit ou âme, doit se prendre dans un sens anthropologique? S'agit-il d'une composante de l'humanité, de telle sorte qu'il faudrait concevoir la mort comme la séparation d'éléments qui composaient la nature de l'homme? C'est là la question que les textes que je viens d'envisager nous posent. Alors, l'opinion courante dans les milieux, disons, académiques, du protestantisme ou du catholicisme contemporain, à cause des conceptions monistes en anthropologie, conceptions uniquement unitaires de l'homme, niant une dualité de composants, choisit en général, cette opinion courante, le premier terme de l'alternative. On nous dit qu'il s'agit simplement du soutien divin de l'être qui est enlevé. Mais ce n'est pas une partie de l'homme, entre guillemets, qui continuerait d'exister quelque part. Et ainsi, l'idée de mort, séparation, ne doit pas être retenue. Séparation entre les parties constituantes de l'individu. Un livre vient enfin de donner un bon coup de balai à l'égard de ces clichés qui ont été colportés depuis Pedersen et Bultmann sur la conception unitaire de l'homme dans la Bible et pour la mentalité hébraïque. J'attendais cet événement depuis assez longtemps. Ceux qui ont suivi des cours ici savent que depuis longtemps je polémique contre cette façon de penser, mais j'ai été très heureux de pouvoir lire à Cambridge l'été dernier un livre qui vient de paraître dans une série très prestigieuse, la série de la Société des études néo-testamentaires, une société internationale, par un théologien évangélique, Gundry, sur le corps. L'ouvrage s'intitule Soma, paru en 1976. Cette étude de Gundry, qui a donc trouvé place dans une série prestigieuse éditée à Cambridge, attaque les théories courantes dans les milieux académiques et montre qu'une conception dichotomiste de l'être humain est effectivement non seulement l'enseignement très clair de beaucoup de passages du Nouveau Testament, mais déjà la suggestion de plusieurs passages de l'Ancien. Alors c'est un livre qui me semble fort important et dont la lecture m'a beaucoup réjoui, même si parfois je trouve qu'il cite quelques passages qu'on pourrait classer dans une rubrique, sous une rubrique douteux. Ce ne sont pas des preuves absolument formelles, on peut les comprendre comme ci, on peut les comprendre comme ça. Il y a suffisamment de textes qui sont indubitables. Gundry fait valoir en particulier que c'est la nefesh, l'âme, qui est couramment évoquée quand il est question de descente au Sheol. Lorsqu'il y a une précision à propos de la descente au Sheol, ce n'est pas du corps ou de la chair qu'il est question, mais de l'âme, vraiment de manière constante. Et comme nous avons vu que la mort dans le Sheol semble une forme d'existence, qu'il est évident que le corps se dissout, lui, dans la poussière, il semble bien que si l'âme est au Sheol, c'est qu'une séparation de l'âme et du corps doivent intervenir dans la mort. Et il appuie cette thèse en soulignant que lorsqu'il est question de réunion au Père, il fut réuni à ses pères, il ne s'agit pas, il ne peut pas s'agir du simple amas des ossements dans le même sépulcre. C'est souvent comme ça qu'on a voulu interpréter la formule en disant être réuni à ses pères, c'est se retrouver dans le même tombeau qu'eux. Mais il montre que plus souvent que le contraire, l'expression est employée alors qu'il n'y a pas sépulture commune. C'est de la mort même et non pas de l'enterrement dans le même lieu que la formule veut parler. Dans le judaïsme post-biblique, intertestamentaire, il est tout à fait clair, il donne là des citations très très nombreuses, que l'âme de l'homme continue d'exister dans la mort, séparée du corps. De nombreux rabbins, au premier siècle de notre ère, il y a plusieurs citations que l'on peut mettre en valeur, et dans des écrits du judaïsme apocalyptique, la littérature énochienne par exemple, c'est aussi très clair. Pour le judaïsme du Nouveau Testament, l'âme continue d'exister dans la mort, et c'est aussi le cas dans le Nouveau Testament. On peut citer en particulier Matthieu 10, 28, où Jésus dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas l'âme. Jésus là fait une distinction très très formelle, qui présuppose que l'âme et le corps peuvent se dissocier, et se dissocient dans ce qu'on appelle la mort au sens premier du terme. Et je pense que dans le Nouveau Testament, on peut citer aussi Apocalypse 6, 9, où il est question des âmes sous l'autel. Il s'agit manifestement de ceux qui sont morts. Évidemment, là, il s'agit de croyants, comme aussi au chapitre 20, verset 4, tel que je l'interprète, du même livre de l'Apocalypse. Mais il me semble que l'indication est assez nette sur la dissociation possible entre âme et corps, et le fait que l'âme désigne ici ce qui continue d'exister de l'homme. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'esprit ? Alors il faut reconnaître que la chose est moins nette dans l'Ancien Testament que pour le mot âme. Séparer entre les deux, cependant, me paraît assez dangereux, d'une part à cause de la communauté d'image à l'origine, et à cause de parallélisme entre âme et esprit dans des textes comme Ésaïe 26, 9 ou Job 7, 11. Le texte qui me paraît le plus fort en faveur de l'idée que l'esprit est considéré comme part de l'homme qui continue à exister, c'est le texte de l'Ecclésiaste évoqué tout à l'heure au chapitre 12, parce qu'il est justement réponse à l'interrogation du chapitre 3, verset 19. Si le mot esprit souffle ne désignait que le soutien divin dans l'être, alors il ne devrait pas y avoir de différence entre les hommes et les animaux à cet égard. Hommes et animaux sont aussi bien soutenus dans l'être par l'Esprit de Dieu. Dieu leur prête la vie, il n'y aurait pas lieu de faire une différence. Or, précisément, la question du chapitre 3 est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que l'esprit de l'homme monte alors que l'esprit de la bête, le souffle de la bête, descend ? Si au chapitre 12, la réponse nous est donnée affirmative, oui, l'esprit de l'homme remonte, c'est que la thèse implique une différence avec la mort animale. Et par conséquent, qu'il ne s'agit pas simplement de l'esprit comme soutien dans l'être, mais vraiment comme part de l'homme que l'on ne retrouverait pas chez les animaux. Voilà, me semble-t-il, la portée de ce texte. Ailleurs dans l'Ancien Testament, je ne serai pas très affirmatif. Parfois, il peut s'agir, me semble-t-il, de la puissance de vie que Dieu communique, et puis c'est tout, sans que ce soit une composante de la nature humaine. Et d'autre part, la nuance dynamique, la connotation de puissance qui s'associe au mot esprit et qui n'affecte pas le mot âme, et il y a une différence de nuance à leur propos, rendait le terme assez impropre pour l'état de l'homme dans la mort, puisque précisément c'est une existence diminuée. Et c'est ce qui nous explique, je crois, pourquoi ce n'est pas le mot esprit qui est couramment employé, mais plutôt le mot nefesh, âme, lorsqu'il est question de descente au séjour des morts. Dans le judaïsme, de nouveau, c'est parfaitement clair, esprit s'emploie aussi bien que âme. Les deux mots sont interchangeables, par exemple, dans la littérature énochienne, pour l'homme existant dans la mort sans son corps. Donc, comme le mot âme, le mot esprit désigne cette part de l'homme qui continue d'exister. Et cela me semble le également le cas dans le Nouveau Testament, dans deux passages. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 23, le texte lu tout à l'heure, il est question des esprits des justes parvenus à la perfection. Il semble s'agir là des justes qui sont morts, mais qui n'ont pas reçu encore leur corps de résurrection, donc esprits des justes. Et c'est le cas en ce qui concerne les injustes, dans le texte d'1 Pierre 3, 19, que j'ai mentionné aussi tout à l'heure. L'idée de séparation qui s'impose dès lors, si on dit que le souffle ou l'esprit qui quitte le corps est une part de l'homme, l'idée de séparation s'exprime en fait dans plusieurs textes. Dans l'Ancien Testament, elle est très très vigoureuse dans le texte de la prière d'Ézéchias, au chapitre 38 d'Ésaïe, versets 12 et 17. Je crois qu'il vaut la peine de lire ces versets parce qu'ils sont d'une poésie très, très prenante. Au verset 12, « Ma tente est arrachée, jetée loin de moi comme la tente des bergers. » La tente ici semble bien caractériser l'existence corporelle de l'homme. D'ailleurs, dans Job, au chapitre 4, les hommes sont appelés des habitants d'une maison d'argile. La tente ou la maison d'argile désigne manifestement le corps. Et il est question ici d'un arrachement de cette tente. Dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 4,6 emploie le mot d'analusis, c'est-à-dire de déliment. Le mot dont nous avons fait analyse en français, mais c'est le mot qui signifie littéralement déliment. Paul évoque son déliment proche, sa mort. S'il y a déliment, c'est bien qu'il y a deux éléments qui sont liés et qui se dissocient. Dans le passage de la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 13 et 15, où il évoque sa mort prochaine, le Seigneur Jésus le lui a révélé, nous avons de nouveau l'image de la tente qui permet d'évoquer le corps. Et de celui et celle de son enlèvement. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Et le mot départ, départ de cette tente, c'est le mot exodos, sortie de. Voilà des expressions qui correspondent tout à fait à l'idée de séparation. On pourrait aussi citer les termes différents employés par la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 5, grand passage de Paul, où il emploie l'image de l'édifice, l'image du vêtement, il les mélange, ces deux images, sans hésiter, pour désigner le corps, et où il dit, en évoquant la possibilité de sa mort, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et le mot qui est utilisé pour quitter, là, signifie donc ne plus habiter, sortir de. Et il y a un jeu entre deux verbes, endemein, habiter à l'intérieur de, et puis ekdemein, dans ce passage. Tous ces exemples me semblent démontrer de manière vraiment suffisante que dans la mort, le mourir s'effectue, pour la pensée biblique, une séparation. Alors je crois qu'il est bon de souligner que cette séparation est dramatique. C'est un arrachement, comme dit la prière d'Ézéchias. C'est un déchirement de ce que Dieu a uni et qui constitue l'homme vivant. Et dans ce sens, je crois qu'il vaut mieux ne pas parler d'immortalité de l'âme. Être ainsi privé de son corps, auquel elle adhère, par tout ce qu'elle est pour l'âme, c'est mourir. C'est entrer dans cet état que nous décrivions tout à l'heure. Alors dire qu'elle serait immortelle ne correspondrait pas vraiment à la façon biblique de parler. Elle ne cesse pas d'exister puisque la mort est une forme d'existence, mais elle en souffre et elle se trouve retranchée de la terre des vivants, elle se trouve paralysée, incapable d'agir, Ainsi, il vaut mieux, je crois, ne pas parler d'immortalité de l'âme à propos de cette subsistance de l'âme. Remarquez que plusieurs traits de la notion de mort que nous avons évoquée tout à l'heure peuvent s'interpréter à la lumière de l'idée de séparation. Là, puisque la synthèse se défait, oui, il y a désagrégation. Puisque l'âme-esprit perd son véhicule et son outil, il y a diminution, il y a tendance au néant, il y a paralysie. Et je crois qu'il est préférable de suivre l'ordre que nous avons suivi, commencer par élaborer la notion avant de venir à l'idée de séparation, plutôt que de faire le chemin inverse. Un dernier trait pour caractériser le mourir dans les textes bibliques, il me semble qu'on doit dire encore que l'événement est la passion par excellence, c'est-à-dire ce qu'on subit. L'événement dans lequel l'homme est totalement passif. J'emploie le mot passion pour traduire le mot grec pathema, pathema ou pathema, comme vous voulez prononcer, qui est employé dans le texte aux Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, Hébreux 2, 9, le pathema de la mort. L'homme est radicalement impuissant devant l'avidité du Sheol, si souvent évoqué, avide comme le séjour des morts. Et Dieu seul peut arracher aux griffes du Sheol. L'homme est incapable de se délivrer. Psaume 49, verset 8, c'est suivant, psaume 89, verset 49. D'où cette crainte de la mort qui tient les hommes asservis, d'après le texte aux Hébreux. Si nous avons bien discerné quelles sont les composantes de la notion de mort au sens premier du terme, les usages dérivés me semblent confirmer notre conclusion. Il y a deux usages dérivés principaux, la seconde mort et la mort qui est l'existence dans le péché. La seconde mort est une forme d'existence. Le parallélisme avec ce qui concerne la vie éternelle dans tant de textes nous oblige à l'affirmer. Mais c'est une existence de paralysie, de séparation des vivants, les ténèbres du dehors, de division interne, les images du ver qui ne meurt pas mais qui ronge, et du feu me semble évoquer cette division interne, malgré la réunion de l'âme et du corps. C'est aussi pour cela que je résiste à l'élévation de cette notion de séparation de l'âme et du corps en notion cardinale pour l'idée de mort. Dans la seconde mort, il n'y a pas séparation de l'âme et du corps, mais il y a les autres éléments de la notion de mort que nous avons recensés tout à l'heure. La mort de l'existence dans le péché, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, le texte d'Éphésiens 2 bien connu, ne me semble pas simplement une mort par figure de style, dans un sens, comme on dit, proleptique, d'anticipation. Certains pourraient essayer de comprendre l'expression comme ça. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés parce que le verdict de mort pesait sur vous, simplement. Vous étiez en quelque sorte mort d'avance. Comme on dit à quelqu'un, vous êtes un homme mort si vous allez là. Je ne crois pas que ce soit le sens dans les passages qui évoquent l'existence dans le péché comme mort. Il me semble que c'est plutôt le sens relatif de la désunion interne, du mauvais fonctionnement, de la solitude et de la paralysie relative. Retrouvons les éléments de la mort, ils sont déjà installés dans l'existence de l'individu. De façon relative, la grâce commune restreint le développement de cette mort, mais elle est déjà là en tant que retranchement, en tant que division interne, en tant que paralysie. Ces usages dérivés associent la mort très étroitement à la condamnation et au péché, et il faut poser maintenant la deuxième question. Je vais être obligé de traiter plus vite que la première, sur la relation entre la mort et la nature de l'homme. La question, c'est de savoir si la mort est naturelle. Donc, deuxième paragraphe, la mort et la nature. Dans l'Écriture, on dirait que s'entrelacent deux façons d'apprécier ou d'interpréter la mort. Par moments, on croirait trouver une résignation paisible, discrètement optimiste. Mourir, c'est s'en aller par le chemin de toute la terre. Un roi de deux. Et, en somme, ça pourrait paraître naturel. On peut mourir comme Abraham, rassasié de jours. Genèse 25:8. Mais vous le savez, dans d'autres textes, et ils paraissent beaucoup plus nombreux, la mort est châtiment. C'est le salaire du péché, comme Romains 6, 23 le souligne. Et les hommes en ont naturellement peur, ce qui semble suggérer qu'elle ne leur est pas naturelle. Hébreux 2, 15. Les théologiens du christianisme divergent de façon correspondante, plus ou moins. Au 5e siècle, Pélage, au début du 5e siècle, Pélage voulait délier totalement du péché la mort physique, la mort au sens premier. Il pensait qu'elle avait toujours existé, qu'elle était naturelle à l'homme et non pas une conséquence du péché. Alors, l'orthodoxie, et en particulier l'orthodoxie protestante, a suivi saint Augustin dans l'interprétation contraire, en rattachant toutes les formes de mort à la tragédie du péché. Et je peux signaler que certains semblent même dépasser la sphère de l'humanité, certains défenseurs d'orthodoxie, et font de la mort animale elle-même une conséquence de la chute. J'ai encore trouvé cela récemment dans un livre intitulé « Scientific Creationism ». La position est différente du côté catholique. D'après le grand jésuite Karl Rahner, dont certains ont dit, je me rappelle que Jean Bosque me l'a dit, que c'était au fond le Karl Barth des catholiques au XXe siècle. D'après le grand jésuite Karl Rahner, dont j'ai ici le texte « Le chrétien et la mort » dans la collection « Foi vivante », je cite « La théologie catholique, à la différence de la réforme et du jansénisme, les héritiers d'Augustin, maintient, la théologie catholique maintient que la mort est aussi un événement naturel. Et pour lui, la théologie catholique trouve dans la mort une ambiguïté et l'occasion d'une dialectique. Ainsi, Rahner affirme qu'Adam, et je cite, « aurait été soumis à une mort dans laquelle son être se serait accompli définitivement, même s'il n'avait pas péché. » Adam serait mort, mais autrement. Et à une page voisine, il souligne que la fin de la forme spatio-temporelle de notre existence, c'est la mort d'un égoïsme métaphysique. Par conséquent, elle était au programme indépendamment du péché. Cette dissolution de notre forme d'existence spatio-temporelle. Bien que Rahner soit influencé par des philosophies modernes, je pense qu'on peut trouver là un parallèle avec le vieux mépris du corps hérité du platonisme dans la tradition catholique, parce que la forme spatio-temporelle, finalement, ça correspond au corps, que l'on accuse d'alourdir l'âme et de l'empêcher de s'élever vraiment jusqu'à Dieu. Il est remarquable que Karl Barth, alors, le vrai Karl Barth, lui, également voit l'être de l'homme limité par le non-être derrière et devant, du côté de la naissance, mais aussi du côté de la mort, son être même. Je cite ici le troisième volume, second tome, second fascicule. Il s'agit du paragraphe 47 de la dogmatique. Et quand il aborde ce qu'il appelle la question extraordinairement difficile de savoir si la mort est naturelle, il est très éloquent qu'il ait cette expression pour désigner la question. Il répond qu'aller vers le non-être n'est pas moins bon que d'en venir. Nous venons du non-être, nous n'avons pas à regretter d'aller vers le non-être. Alors il distingue, ça fait partie des habiletés barthiennes, le non-être du néant. Ce n'est pas la même chose pour lui. Le néant qui est associé au péché est autre chose que le simple non-être. Mais quant au non-être, vous voyez ce qu'il dit. Et quand il affirme la vie éternelle, c'est assez ambigu.
Il dit que c'est en tant qu'être passé que nous participerons à la vie éternelle. Nous serons entièrement passés. Il ne s'agira pas d'une poursuite d'une vie renouvelée. Et il affirme qu'une durée illimitée ne serait pas bonne pour l'homme, toujours dans ce même fascicule de la dogmatique. Il est intéressant que ces deux théologiens, le Karl Barth des catholiques et puis le Karl Barth des protestants, se rejoignent de cette façon. Je crois qu'il y a l'influence d'une certaine notion de l'éternité, d'une part, et qu'il y a aussi l'influence du motif nature-grâce qui règne à la fois chez l'un et chez l'autre. Pour le catholique, la grâce se surajoute à la nature pour l'achever, alors la mort naturelle est affirmée, mais il s'y surajoute la grâce. Pour Barth, la nature est niée par la grâce qui lui est affectée, mais du coup, alors, nature et péché sont tellement associés que la mort finit par apparaître aux yeux de Barth à son tour, comme, d'une certaine façon, naturelle. Alors, dépister ces influences du motif nature-grâce, par exemple, c'est déjà prendre position. La note dominante dans l'écriture, c'est, je crois, indubitablement celle de la mort-punition, rétribution du péché. C'est à la fois une conséquence inéluctable et un dû de justice. Il me semble impossible de limiter Genèse 3 et Romains 5 à la mort spirituelle ou à une simple modalité de la mort qui aurait été, mais autrement. C'est bien la mort dont nous revenons par la résurrection, d'après 1 Corinthiens 15. Le parallélisme entre mourir en Adam et revivre en Christ est assez clair. 1 Corinthiens 15 est parallèle à Romains 5. La mort qui est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam ne peut pas être autre chose que la mort physique, et puis peut-être les autres formes, mais d'abord la mort physique, la mort au premier sens. Et il faut rejeter, je crois, les arguments de Rahner ou de Barth. Une durée illimitée n'eût pas fait de l'homme un être indéfini. C'est là qu'on aurait trouvé quelque chose de mauvais. Mais dans la stricte dépendance de Dieu, l'homme aurait eu parfaitement sa limite, recevant de Dieu à chaque jour de son éternité ce qui lui convenait. Cela n'aurait pas fait de cet homme un homme dans une sorte de mauvais infini. Et l'individualité spatio-temporelle alors n'est pas un égoïsme métaphysique. Nous devons rejeter cette thèse qui est au fond dualiste. L'individualité de la créature, c'est l'image très bonne de l'unité du Dieu créateur qui suscite un partenaire bien défini pour son alliance. Ainsi, nous devons rejeter cet argument de Rahner. Je crois qu'il faut affirmer bibliquement la mort comme salaire du péché. Et si Abraham meurt rassasié de jours, c'est Abraham. Et si c'est la voie de toute la terre que de mourir, ça n'en fait pas quelque chose de naturel, puisque c'est par l'universalité du péché que s'expliquera cette universalité dans la mort. Cependant, gardons-nous à notre tour d'un dualisme métaphysique, et je crois que certains orthodoxes ne s'en sont pas assez gardés. La mort animale n'est nulle part perçue comme un scandale dans l'Écriture. Et la thèse de ces amis qui voudraient rattacher la mort animale à la malédiction pesant sur la création, soumise à la vanité, me semble sans fondement biblique suffisant. Et elle me semble extrêmement artificielle, car où s'arrêter pour la mort animale? Bien sûr, nous sommes affectés à cause du lien de vie qui s'est créé par la mort d'un chien ou d'un chat, mais jusqu'où descendre? Il faut descendre jusqu'aux bactéries et aux protozoaires. Certains ont essayé de prétendre que, puisque c'est par division cellulaire qu'il y a reproduction à ce niveau, il n'y avait pas de mort, mais une sorte de vie éternelle. Le docteur Maurice Vernet, dans son livre « La vie et la mort », montre bien qu'il n'en est pas, que ce n'est pas le cas, qu'il y a effectivement mort pour ces êtres vivants de niveau élémentaire. Alors si nous devions dire que c'est un drame créé par le péché, produit par le péché, alors il faudrait supposer que la création n'est plus du tout la création que Dieu a faite. et tous les textes qui nous présentent notre monde comme création divine, je dirais, perdraient leur application. Ce serait quelque chose de radicalement différent qui serait maintenant notre monde. Et on ne comprendrait pas d'ailleurs les merveilles d'agencement dans le fonctionnement du vivant si ce qu'on doit appeler la mort était dû au péché. Non, il n'y a pas scandale. Il n'y a scandale dans la mort que pour l'être créé en image de Dieu. Et pour l'homme, alors ? Bien, pour l'homme, non plus, il ne faut pas affirmer la mort salaire du péché d'une manière, je dirais, inintelligente. Il faut voir qu'il y a en même temps une correspondance avec sa nature. Car le texte de la Genèse le souligne, il y a retour à la poussière de laquelle l'homme a été pris. La poussière retourne à la terre, à la Adama, dont le Adam a été tiré. Si la sanction de mort s'abat sur l'homme, ce n'est pas non plus que sa définition métaphysique soit bouleversée. Il ne devient pas un être d'un autre étage dans la hiérarchie des êtres. C'est une certaine correspondance avec ce qu'il est, puisqu'il est poussière, de par sa création même, que la mort. Il n'avait pas l'immortalité comme une impossibilité de mourir possédée par lui. En fait, Dieu seul possède l'immortalité, 1 Timothée 6, verset 15. Ce qui, dans le récit de la Genèse, représente la vie illimitée dont l'homme jouissait, c'est l'arbre de vie. C'est en mangeant de l'arbre de vie que l'homme échappait à la loi de la dissolution qui opère dans le domaine animal. L'homme appartient aussi au domaine animal, en solidarité avec les autres animaux du sixième jour, les autres créatures du sixième jour. Mais grâce à la communion avec Dieu, qui est le propre de l'homme, son privilège de créature en image de Dieu, grâce à cette haleine de vie insufflée en lui, l'homme pouvait échapper à cette loi qui opère, et qui opérait déjà, dans le domaine animal, sans drame. Cela faisait partie de la bonté de la création pour le domaine animal. En rejetant la loi de cette relation, la relation à Dieu, qui lui était propre, l'homme est tombé sous la loi de l'autre relation fondamentale de sa nature. L'homme est solidaire des animaux, et l'homme était invité à la communion avec Dieu et s'y trouvait. Dans la communion avec Dieu, il y avait le renouvellement de vie, le fruit de l'arbre de vie, qui lui permettait d'échapper à la loi de la dissolution biologique. Mais maintenant qu'il a renié la loi de son Créateur, il tombe sous la loi de la mortalité. Et c'est pour cela qu'il pouvait très bien savoir ce que signifiait le « tu mourras » de la parole divine. Ainsi, à partir de là, il meurt comme les bêtes, tiré comme lui du sol. Mais en même temps, parce qu'il ne peut pas abolir sa définition de créature, il reste différent des bêtes. Sa révolte n'a pas le pouvoir de le changer d'homme en bête. Et ainsi, tout en mourant comme les bêtes, il ne meurt pas comme les bêtes. Il ne meurt pas simplement comme les bêtes. Pour avoir voulu singer Dieu, mais sans parvenir à l'égaler, il imite la bête, mais sans parvenir à la rejoindre. Il va vers le néant, mais sans s'y évanouir. Ainsi, la mort, à cause de cette situation, sanction du péché, mais correspondance avec la nature de l'homme, rappelle à l'homme ce qu'il est, l'humilité de sa condition quand il prétend transgresser sa limite. Et je suis frappé de voir que souvent dans l'Écriture, le verdict de mort vient sur celui qui prétend s'élever. C'est le châtiment d'une folle présomption. Lorsque l'homme prétend être Dieu, psaume 82, verset 6, Ézéchiel 28, la première partie, nous montre cette logique-là. Lorsque l'homme prétend échapper à sa dépendance, lorsqu'il saisit le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors il doit connaître sa limite. Il bute contre la limite de la mort. Alors vous le savez, la grâce fait éclater cette logique terrible Et nous devons poser la question finalement, dans le dernier paragraphe, qu'en est-il de la mort après que Jésus l'ait goûtée par la grâce de Dieu pour tous, Uper Pantos, Hébreux 2.9, après que l'Évangile ait mis en évidence la vie et l'immortalité de Timothée 1.10. Le premier point à souligner, c'est que la mort est radicalement vaincue par l'œuvre de Jésus-Christ. La logique de cette victoire sur la mort n'est nulle part plus claire, me semble-t-il, en tout cas nulle part plus ramassée, que dans les deux versets de la première aux Corinthiens, au chapitre 15, à la fin de la grande discussion sur la résurrection, versets 56 et suivants. Souvent, nous sautons par-dessus ces versets qui me paraissent pourtant très importants pour la compréhension de la théologie de Paul et de toute la Bible. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, ce qui fait de la mort l'épreuve terrifiante qu'elle est, c'est la condamnation qui y est impliquée. Et ce qui donne au péché sa puissance d'asservissement à l'homme, c'est le système de la loi qui fait de Dieu un juge qui condamne, qui nous coupe de toute relation avec Dieu et nous enferme en nous-mêmes et donc nous livre à la puissance du mal. C'est en satisfaisant la loi, en nous obtenant une justification gratuite, que Dieu brise la puissance du péché. Car la puissance du péché, c'est la loi. À partir du moment où la loi est satisfaite et où Dieu a condamné le péché dans la chair, en Christ, il peut libérer en nous les puissances de l'esprit de vie, nous affranchir de telle sorte que le péché est vaincu et du coup l'aiguillon de la mort lui est enlevé. Voilà la logique de ce passage de la première aux Corinthiens qui me semble très très remarquable. La mort a perdu son aiguillon comme une guêpe à laquelle vous l'auriez arraché, qui continuerait peut-être à faire peur mais qui ne pourrait plus faire de mal. Et cette pensée se reflète dans le langage des chrétiens, l'image du sommeil, s'endormir. Jésus a inauguré cette façon de parler, Matthieu 9.24, Jean 11.11. Il ne s'agit pas de sommeil des âmes. Calvin a écrit son premier écrit théologique pour réfuter cette opinion, qui était celle de Luther. Il ne s'agit pas de sommeil des âmes au sens littéral et d'inconscience, mais il s'agit d'un euphémisme, d'une façon de parler qui veut démontrer, comme dans les deux récits évangéliques où Jésus l'a employé, que la mort est vaincue, que la mort n'est plus la mort. Et Jésus a pu même dire, Jean 11, 26, qu'en un sens, il n'y a plus de mort pour celui qui croit en lui, pour celui qui s'est joint à lui. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alors la première partie du passage montre bien que la mort, au sens courant, continue d'arriver. Il vivra quand même, il serait mort. Mais la deuxième partie montre qu'en un sens, la mort n'est même plus la mort. Et c'est là l'établissement d'une continuité insécable. La doctrine de l'état intermédiaire pour les croyants s'accroche ici. Et je vous signale qu'elle me paraît impliquée par le présent de Luc 20, 38, quand Jésus dit à propos d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ceux auxquels Dieu s'est lié par alliance, pour lui tous sont vivants. Non pas simplement revivront, ce qui concernerait la doctrine de la résurrection, mais tous sont vivants. Dieu ne peut pas laisser tomber, même seulement dans une inconscience, ceux auxquels il a ainsi lié son nom, ceux qu'il a incorporés dans son nom, puisqu'il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et une preuve marginale serait la venue d'Élie et de Moïse à la transfiguration. C'est avant la résurrection. Je crois que là, nous avons bien la preuve que nous n'avons pas inconscience ou inexistence temporaire. Et à cause de cela, la mort peut même devenir l'objet de préférence, sans que le choix soit très facile. Paul le souligne, pressé des deux côtés, tiraillé si vous voulez. Nous avons deux passages en particulier, 2 Corinthiens 5, où il dit qu'il préfère quitter ce corps, bien que la destinée ne soit pas d'être sans corps, ultimement, pour être auprès du Seigneur, et Philippiens 1, le passage où il affirme que la mort est un gain, car vivre c'est Christ. Il y a priorité du lien à Christ par rapport au lien de l'âme et du corps. Le lien au Christ est plus précieux encore, et comme il est confirmé, consolidé par cette dissolution de la tente dans laquelle nous sommes, on peut dire que c'est un gain. Cependant, deuxième thèse, la mort est encore ennemie. Jamais l'Écriture ne va jusqu'à l'amour de la mort. Karl Rahner, à plusieurs reprises, recommande l'amour de la mort, justement parce qu'il la croit naturelle, un accomplissement, mais jamais l'Écriture ne va jusque-là. Même dans les textes où la mort apparaît comme l'objet d'un choix possible, d'une préférence pour le chrétien. La mort reste le dernier ennemi, en Corinthiens 15. Et, de manière figurée, cela nous est dit avec beaucoup de force, lorsqu'il est dit qu'elle sera jetée dans l'étang ardent. Apocalypse 20, 14. C'est bien l'indication que la mort, comme telle, reste réalité ennemie. Et pour le chrétien, la séparation de son corps, la dissolution du corps, reste une épreuve inhumaine, contraire à la destination première de l'homme. Même si la grâce évide cette épreuve, la remplit de l'intérieur et la submerge, il n'y a pas une transmutation de ce mal en bien. C'est un mal qui est comme englouti, mais non pas transmuté. Rahner a une thèse qui mérite, je crois, d'être discutée en conclusion, s'appuyant sur sa dialectique, mais aussi sur l'exemple de Jésus. Il suggère que la mort peut devenir action et pas seulement passion. Et il développe ce thème en particulier à propos du martyre. Mourir dans le Seigneur, suggère-t-il, c'est pouvoir faire de sa mort une action, un achèvement de sa vie, une donation mystique de soi à Dieu. Et il fait le parallélisme avec la mort à soi-même, la mort mystique. Alors je crois que tel quel, nous ne pouvons pas admettre la thèse de Rahner. C'est justement sa dialectique qui l'engage dans une voie malsaine qui lui fait finalement traiter la mort comme naturelle si elle fait partie d'une dialectique, alors que la Bible nous présente l'intervention de la mort comme un scandale, comme le scandale même du péché. Et quant à la mort de Jésus, je crois que nous devons bien discerner les choses en remarquant que ce n'est pas la mort de Jésus elle-même qui est action. C'est la manière dont Jésus a consenti à sa mort, s'est livré à la mort, et dont cette mort s'intégrait dans le plan de Dieu comme expiation de nos fautes, qui en a fait une œuvre. Mais ce n'est pas la mort elle-même qui a cessé d'être seulement passion pour devenir d'une certaine manière action. C'est à l'occasion de la mort, dans la mort, au moment de la mort, et par le moyen de la mort même, que Jésus a agi. Mais ce n'est pas la mort elle-même qui a été transformée de la catégorie passion à la catégorie action. Donc je ne pense pas qu'on puisse accepter telle qu'est la thèse de Rahner. Mais en même temps, il me semble qu'il nous suggère quelque chose de vrai et de précieux lorsqu'il évoque l'exemple du Seigneur Jésus et la possibilité, mourant dans le Seigneur, de mourir à son image, à sa suite, à cause de ce qu'il a fait, mais vraiment à sa suite. Et je voudrais, pour terminer, suggérer de quelle façon, au moment de notre mort et dans notre mort, nous pouvons demander au Seigneur qu'il y ait non seulement la réalité subie de la mort, mais aussi autre chose, à l'image de Jésus. Pour le Christ, nous associer à sa victoire, c'est nous permettre de dire dans cette mort même le oui que Dieu aime entendre de sa créature, oui à la sagesse de Dieu. Acceptation ou consentement, comme disait M. Widmer hier à propos de la maladie. C'est le Père, je remets mon esprit entre tes mains, qui se trouve repris en quelque sorte, comme en écho et en imitation dans la prière d'Étienne, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Cet acte de confiance, qui n'est pas la mort même, mais qui est, au moment de la mort, une action. Il y a le témoignage de foi et d'espérance qui s'y associe devant les hommes et devant les anges qui glorifient le Seigneur. Je crois que c'est dans ce sens que Paul parle dans Philippiens 1 de sa mort comme une occasion par laquelle le Seigneur sera glorifié, soit dans sa vie, soit dans sa mort. Il sera glorifié. Et puis, finalement, je crois que nous pouvons évoquer dans la mort la remise de compte. La mission est remplie et on se présente au moment de la mort devant le Maître avec tout ce que l'on a fait par le corps. Cela correspond à la parole de Jésus, c'est accompli, tétélestai de la croix, c'est accompli. Il a accompli la mission qui lui avait été donnée et il se présente devant le Père avec cette œuvre faite. Et c'est ce qui lui correspond dans la parole de Paul en 2 Timothée 4. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. Il me semble que nous pouvons demander au Seigneur que, dans cette mort qui reste ennemie, mais dont l'aiguillon a été enlevé, nous puissions ainsi lui dire oui et lui remettre ce qui a été notre vie terrestre, en attendant de le servir, parce que ce sera une vie renouvelée, non pas une simple éternisation d'une vie passée, en attendant de le servir dans les tabernacles éternels et sur la nouvelle terre.